Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec et Eric Manirakiza en direct de la capitale américaine, lundi 4 février 2019, Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel. Au sommaire ce soir,
frappe française dans le nord du Tchad contre une colonne armée venue de Libye.
Le président de la Cour suprême du Nigeria sommé de comparaître devant le tribunal du code de conduite pour corruption.
Accord de paix centrafricain, les habitants de Bangui s'oppressent de découvrir le contenu du compromis encore tenu.
En Somalie, 9 morts à Mogadiscio dans l'explosion d'une voiture piégée. Les Chebabs ont revendiqué l'attaque.
Crispation politique au Venezuela. Plusieurs pays européens ont reconnu l'opposant Juan Guaido, autoproclamé président par intérim.
Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal.
Au Burkina Faso, 15 villageois ont été tués ce matin par des hommes armés dans le village d'Okein, à la frontière avec le Mali. Les attaques se sont multipliées ces derniers jours dans le pays, alors que sont attendus demain à Ouagadougou les chefs d'État du G5 Sahel. Bagassi Koura.
Selon la presse locale, le village de Ken-Ouro, dans la commune de Ken, dans le nord du pays, a été attaqué tôt ce matin par des individus armés sur des motos. Le village est situé à la frontière avec le Mali, vers où se serait d'ailleurs dirigé une partie des assaillants. De sources concordantes, on parle d'au moins 15 morts. Les autorités n'ont pas encore réagi à cet incident, le dernier d'une série d'attaques ayant secoué le Burkina Faso ces derniers jours. Hier soir, la gendarmerie de la petite localité de Siniena, dans le sud, vers la frontière ivoirienne, a été attaquée par des hommes armés. Lundi, l'armée affirmait les avoir repoussés. Selon l'agence d'information du Burkina, ce matin, par peur, les parents d'élèves sont allés retirer leur progéniture des écoles de Siniena. Samedi, un véhicule de la Croix-Rouge a été enlevé dans le nord du pays avec 4 membres de l'organisation à bord. C'est donc dans ce contexte que se réunissent demain à Ouagadougou les chefs d'État du G5 Sahel pour tenter de redynamiser une force régionale antiterroriste qui peine à se mettre en marche.
Une patrouille de Mirage 2000 français a procédé dimanche dans le nord du Tchad à des frappes en appui de l'armée tchadienne. La France explique que ces frappes visaient à arrêter une colonne de 40 pick-up d'un groupe armé en provenance de Libye. Les précisions de John Lindon.
La colonne visée était celle de l'UFR, l'Union des forces de la résistance, a indiqué son porte-parole Youssouf Hamid. En intervenant militairement dans les affaires internes du Tchad, la France prend un tournant dangereux, a-t-il averti. Dans un communiqué du ministère français des armées, Paris explique que l'intervention des Mirage 2000 a permis d'entraver cette progression hostile et de disperser la colonne qui s'infiltrait profondément en territoire tchadien. Les frappes françaises ont eu lieu entre les régions du Tibesti et de l'Enedi. Youssouf Hamid, qui affirme que l'UFR n'a pas peur des frappes aériennes françaises, n'a pas précisé si l'objectif de cette colonne était d'atteindre la capitale N'Djamena, comme son mouvement l'avait tenté en 2008. Cette année-là, une colonne armée de l'UFR, venue de l'Est, avait atteint les faubourgs de N'Djamena et failli renverser le pouvoir du président Idriss Déby. L'UFR est dirigé comme en 2008 par Timan Erdimi, neveu du président Déby, et membre comme lui de l'ethnie des Agawa, originaire du nord-est du Tchad.
Les États-Unis ont offert au Niger un bâtiment abritant un centre de communication et de transmission militaire pour lutter contre les groupes islamistes et notamment Boko Haram. Cette infrastructure comprend notamment deux centres d'opérations tactiques, du matériel de communication spécialisé et des radios nécessaires pour fournir les informations utiles aux forces sur les champs de bataille et mieux les utiliser. Kano, le nord du Nigeria, au cœur des ambitions de la présidentielle. Des dizaines de milliers de personnes ont convergé dans cette localité pour soutenir la réélection du président sortant Muhammadu Buhari. Avec ses 15 millions d'habitants, Kano est une région clé pouvant faire basculer les résultats de tout le pays. En 2015, Buhari avait remporté 89% des voix à Kano face à Goodluck Jonathan, un chrétien du Sud.
Israël a dénoncé des propos antisémites tenus hier par un ministre camerounais, à la télévision d'État. Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, a déclaré qu'en Allemagne, il y avait un peuple qui était très riche, qui avait tous les leviers économiques, précisant qu'il évoquait les Juifs. Selon lui, ils étaient d'une arrogance telle que le peuple allemand se sentait un peu frustré. Puis un jour est venu au pouvoir un certain Hitler qui a mis ses populations dans les chambres à gaz, a-t-il ajouté.
Des parlementaires français de diverses sensibilités politiques ont réclamé aujourd'hui la libération du journaliste camerounais Amadou Vamouké, incarcéré depuis 30 mois à Yaoundé.
Le gouvernement centrafricain et les 14 groupes armés du pays finaliseront ce mardi leur accord de paix conclu samedi à Khartoum au Soudan. La cérémonie de paraf se fera en présence du président centrafricain Faustin Archange Touadéra et de certains de ses homologues africains. À Bangui pour VOA Afrique, la correspondance de Freeman Sipila.
Jusqu'à ce lundi soir, rien n'avait encore filtré du contenu de cet accord conclu entre le gouvernement centrafricain et les chefs des 14 groupes armés après plus de 10 jours de négociations dans la capitale soudanaise. Ce flou qui entoure cette entente entre les deux parties suscite des interrogations en Centrafrique, surtout en ce qui concerne l'amnistie et le partage du pouvoir exigé par les chefs rebelles. Depuis Khartoum au Soudan, Firmin Gribada, directeur de cabinet du président centrafricain et chef de la délégation gouvernementale, appelle les centrafricains au calme et à la patience.
Le contenu de ce projet d'accord de paix et de réconciliation. Donc j'en appelle à la sérénité donc, de l'ensemble de nos compatriotes. Je les invite donc à patienter. Le jour où l'accord sera paraphé et signé, donc nous allons rendre public son contenu et à partir de ce moment, on saura de quoi il est question.
Cet appel est loin de calmer l'envie des centrafricains alors que le document finalisé devrait être paraphé par les deux parties ce mardi. Les chefs d'État centrafricains, soudanais et tchadiens sont annoncés à la cérémonie aux côtés des facilitateurs de l'Union africaine et de l'ONU. Le gouvernement centrafricain et les groupes armés du pays ont conclu samedi 2 février dans la capitale soudanaise un accord de sortie de crise à l'issue de plus de 10 jours de négociations conduites par l'Union africaine. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
En RDC, François Béa, nommé conseiller spécial en matière de sécurité à la présidence. Il a géré la direction générale des migrations pendant 12 ans. Le président Félix Tshisekedi a rencontré aujourd'hui la garde présidentielle dans un camp militaire de Kinshasa pour assurer l'appareil sécuritaire du pays. Plusieurs centaines de militaires et leurs dépendants ont participé à cette rencontre. Et M. Tshisekedi a réitéré sa promesse d'améliorer les conditions sociales des militaires.
Et toujours en RDC, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a estimé que l'élection de Félix Tshisekedi est une espèce de compromis à l'africaine à ne pas remettre en cause aujourd'hui. M. Le Drian a précisé que la situation était totalement différente au Venezuela, où Paris a contesté la victoire de Nicolas Maduro.
En Somalie, les islamistes Chebab ont mené aujourd'hui deux attaques à Mogadiscio. L'explosion d'une voiture piégée a fait au moins 9 morts. Et dans la région du Puntland, le directeur européen d'un port a été assassiné. Les précisions de Claire Morin-Gibourg.
Une nouvelle fois, la capitale somalienne a été frappée en plein cœur. Une voiture piégée a explosé ce matin à proximité d'un marché très fréquenté du sud de Mogadiscio, faisant au moins 9 morts. Hamza Ali est commerçant sur ce marché.
J'ai vu ce cadavre et je les connaissais tous. Je suis le propriétaire de ce magasin et comme vous pouvez le voir, il a été gravement endommagé par le souffle de l'explosion.
Les Chebab ont revendiqué cet attentat ainsi que l'assassinat de Paul-Anthony Forbosa qui dirigeait le port de Bosaso dans l'état du Puntland sur le golfe d'Aden entre la mer Rouge et l'océan Indien. Dans un communiqué, le porte-parole des Chebab, Sheikh Abdiaziz Abu Moussaab, a précisé que cette attaque ciblait les compagnies mercenaires qui pillent les ressources de la Somalie. Un contrat de concession de 30 ans avait été signé au printemps 2017 pour la gestion et le développement de ce port avec une filiale de la société émiratie DP World.
La police soudanaise a tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants anti-gouvernementaux. Ce mouvement de contestation dure depuis le 19 décembre. À l'origine, la décision du gouvernement de tripler le prix du pain.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs. ailleurs dans le monde, la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Suède reconnaissaient l'opposant Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela. Plusieurs capitales européennes avaient donné jusqu'à aujourd'hui au président sortant Nicolas Maduro pour organiser une autre élection présidentielle, ultimatum qu'il a rejeté.
Et l'Union européenne a entériné l'entité créée par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni pour commercer avec Téhéran malgré les sanctions américaines.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Nani Talani.
La société d'électricité sud-africaine Eskom est sur le point de réduire son déficit de financement avec un prêt de 15 milliards d'euros contracté auprès des banques locales et internationales. Cette enveloppe représente 30% de ses besoins financiers pour l'exercice 2019-2020. Grâce à ce prêt garanti par le gouvernement, Eskom, fournisseur de plus de 90% de l'énergie en Afrique du Sud, n'a plus que besoin de 5 milliards d'euros d'ici fin mars pour régler ses difficultés financières. Le Botswana prévoit une croissance économique plus lente en 2019, s'établissant à 4,2% alors qu'elle était de 4,5% l'année dernière, selon le ministre botswanais des Finances, Kenneth Matambo. Le déficit budgétaire reste inchangé avec 3,5% du PIB. Le ralentissement de la croissance est synonyme de moins de revenus, ce qui appelle un contrôle des dépenses pour que le pays reste sur la voie de la viabilité budgétaire. Terminons avec des chefs d'entreprise africains qui viennent de fonder en Côte d'Ivoire l'Association africaine des professionnels de l'industrie événementielle. Elle vise à fédérer tous les acteurs de ce marché en plein essor, estimé à 35 milliards d'euros en Afrique contre 880 milliards d'euros au niveau mondial. Cette initiative permet de stimuler l'innovation et de promouvoir l'investissement dans ce secteur qui a une forte demande d'emploi dans le continent.
Et dans votre page sportive, nous retrouvons Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Et on commence avec cette première journée en Coupe CAF. Le continent a vibré ce week-end.
Oui, tous les clubs à domicile se sont imposés à l'exception de l'AS Oto, Hassania Agadir ou encore l'Étoile du Sahel. C'était un week-end de derby. En Zambie, le Zesco est venu à bout d'un Kana 2-0 avec une réalisation de Lazarus Kambolé dans le match 100% marocain entre Hassania Agadir et le Raja Casablanca. Il n'y a pas eu de vainqueur 1-1. Écoutons le nouvel entraîneur du Raja Casablanca qui débute avec un match nul sur le banc Rajaoui, Patrice Carteron.
J'ai surtout beaucoup aimé notre état d'esprit. Après, comme j'avais dit hier, il y a beaucoup de choses qu'on doit améliorer, qu'on doit travailler. En 48 heures, j'avais surtout demandé aux joueurs, j'ai beaucoup insisté sur l'état d'esprit qu'ils devaient avoir. Je voulais vraiment qu'ils montrent que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les absences, on était capable de montrer beaucoup de valeur sur le terrain.
Ailleurs en Tunisie, défaite à domicile de l'Étoile du Sahel devant le CS Sfaxien 0-1. L'AS Oto a été surpris par les Marocains de la Renaissance Berkane 1-1. Écoutons Ali Badra Diallo, l'entraîneur du club congolais de l'AS Oto.
C'est un championnat, nous sommes chez nous. Prenez dans le cadre du championnat, c'est un point, c'est pas une défaite. On voyait quand même, c'est des matchs où quand même où nous aurons pu perdre la dernière action. On a eu quand même un ballon qui a été sauvé sur la ligne. Nous aurons pu quand même marquer. On a eu des occasions, on aurait quand même pu marquer. Les deux équipes ont eu des occasions. Dans la mesure, ça c'est juste pour nous, c'est un match à aller qui se joue nous devant et nous allons partir à Berkane dans quelques semaines. C'est pas positif parce que notre objectif c'est quand même de gagner, de faire les plans de nos points chez nous.
Le Hilal Ndourman a pris le dessus sur la Santé Kotoko 1-0 et belle victoire de Gormaya du Kenya sur le Zamalek 4-2.
Et on enchaîne directement avec cette troisième journée en Ligue des Champions.
Oui, dans le groupe A, le Wydad de Casablanca et le Mamelodi Sundowns partagent la première place avec 6 points, grâce à leurs succès respectivement 1-0 face à l'Obista et 3-1 contre la SEC d'Abidjan. Orlando Pirates et l'Espérance de Tunis partagent aussi la tête du groupe B avec 5 points devant les Guinéens du Oroya classés 3e suite à leur victoire 1-0 à Harare contre Platinum Star. Dans le groupe C, le tout-puissant Mazembe s'est replacé, succès historique des Corbois Lubumbashi 8-0 contre le club africain de Tunis. Un record depuis la création de la phase de poule en 1997. Le TP Mazembe est deuxième désormais derrière Constantine qui était au repos. Et puis dans le groupe D, l'autre club congolais, l'AS Vita Club, a été accroché à domicile par les Algériens de Saoura 2-2.
C'était les sports de Yacouba Ouedraogo. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec et Eric Manirakiza. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour.
Lancement hier au Sénégal de la campagne électorale pour la présidentielle du 24 février. El Hadj Sall, un des 5 candidats en lice, veut défendre des valeurs. Coordonnateur national du Parti de l'Unité et du Rassemblement, il a réussi à décrocher 3 sièges de député lors de la première participation de son parti à une élection. Aujourd'hui candidat à la présidentielle, il propose aux Sénégalais un programme dénommé « Pur sang » qui s'articule autour de 100 points censés améliorer la vie des Sénégalais. Le portrait d'El Hadj Sall avec Seydina Bagay, notre correspondant à Dakar.
Âgé de 63 ans, El Hadj Sall, candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement, est un diplômé en technologie de l'Université de Dakar. Celui qui a dirigé pendant quelques mois la section principale des télécommunications de la Société nationale d'électricité a aussi fait des études d'informatique aux États-Unis. Là-bas, il obtient un master et un doctorat avant de revenir au Sénégal pour travailler successivement dans l'administration, dans le système des Nations Unies et dans le secteur privé. Pour lui, il est important de servir le Sénégal.
Nous avons un devoir envers notre pays qui nous a vu naître, grandir et qui nous a tout donné.
En 1998, le coordonnateur national du PUR, Parti de l'Unité et du Rassemblement, crée l'Université du Sahel à Dakar. El Hadj Sall enseigne l'informatique générale, l'architecture informatique et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui consultant international dans le domaine du traitement informatique des élections, El Hadj Sall est l'auteur de plusieurs publications sur les systèmes informatiques et le rôle des technologies dans le renforcement de la démocratie. Tête de liste nationale du Parti de l'Unité et du Rassemblement PUR, lors des législatives de 2017, El Hadj Sall est élu député. À l'hémicycle, il dénonce certaines pratiques.
Tous les projets de loi qui viennent à l'Assemblée passent comme lettres à la poste, même si certains de ces projets risquent de mettre le pays dans des situations inextricables. C'est le cas d'ailleurs du parrainage.
Avant cela, le mathématicien informaticien fut de 1996 à 2001 le premier vice-président du Conseil régional de Fatick, une région du centre du Sénégal frontalière avec la Gambie. Investi candidat à la présidentielle le 8 décembre 2018 par le Parti de l'Unité et du Rassemblement, El Hadj Sall ne compte pas faire le figurant. Il veut jouer le premier rôle en s'appuyant sur la communauté des Moustachidines, une association religieuse qui constitue son principal atout, d'après l'analyste politique Babacar Diouf.
Ils sont très bien organisés et participent régulièrement au débat public. Comme aux élections législatives, ils ne souhaitent pas, à ce stade de l'élection, s'appuyer sur des forces politiques traditionnelles. Cette stratégie leur avait bien réussi aux dernières élections. Le pur constitue une force montante de la politique et se positionne sur l'éthique et les valeurs qui sont mis en mal par les hommes politiques en général.
Communément appelé Issa Sall, le candidat du PUR est très attaché au slogan de son parti qui est la vérité, le respect de la constitution et des principes de la souveraineté nationale. Pour faire converger les Sénégalais vers sa personne, El Hadj Sall s'est fixé comme mission de faire décoller le Sénégal. Il a présenté son programme dénommé Pur Sang, articulé autour de 100 points qui concernent directement les populations sénégalaises. Des populations qu'il espère convaincre de voter pour lui à la présidentielle du 24 février 2019. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Tchad, les augmentations générales spécifiques de 15% accordées aux fonctionnaires ne font pas l'unanimité. Le gouvernement s'est servi de la coupe de salaire entrée en vigueur en janvier 2019. Réaction des travailleurs et responsables syndicaux dans le reportage d'André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena.
Les fonctionnaires frappés financièrement par les mesures d'austérité du gouvernement se disent une fois de plus avoir été roulés dans la farine. Les 15% sur la coupe des AGS, les augmentations générales spécifiques entrées en vigueur ce mois de janvier 2019, ramenant ainsi les AGS à 65% conformément à l'accord signé le 26 octobre 2018 entre gouvernement et partenaires sociaux, ne change pas grand-chose dans le panier de la ménagère. Quelques fonctionnaires expriment au micro de VOA Afrique leur déception.
Bon, quand vous prononcez AGS, j'ai la migraine, moi je comprends rien dans tout ce qui se passe. Je sais que j'ai plus de 200 000 en l'air et ça m'énerve même.
Dressassement par-ci, abattement par-là, 16 mesures par-ci, et on ne s'en sort pas.
De toutes les manières, nous savions que ça ne donnait pas grand-chose, mais il faut faire avec, c'est ça.
Les 15%, nous, on pensait voir le salaire un peu rehaussé, mais dommage, c'est une déception.
Pour Younous Mahadir, vice-président de l'Union des syndicats du Tchad et membre du comité paritaire gouvernement et syndicats pour l'assainissement des fichiers de la solde, les fonctionnaires ont raison de se plaindre.
C'est tout à fait normal. C'est normal que les fonctionnaires disent que c'est insignifiant. Exactement, c'est entre 10 000, peut-être même moins, 15 000, pas plus que ça.
Les agents sont en sorte les salaires. Ce n'est pas des indemnités, c'est inclus dans les salaires. Mais ils nous ont imposé pour qu'on puisse avaler cela. Donc nous savons bien que ceci est une constitution qui nous empêche effectivement de satisfaire bien les intérêts des travailleurs.
Younous Mahadir estime que les 15% des AGS et la mise en place du comité paritaire est un premier pas gagné par les travailleurs. Toutefois, il est pessimiste quant à l'application des recommandations qui seront déposées par le comité.
Déby a toujours été efficient. Il avait même dit qu'il n'augmenterait pas d'un seul sou. Il allait même réduire. Déjà, lorsqu'il a introduit dans le budget, nous avons constaté qu'il était obligé de faire appliquer parce qu'il n'a pas d'autre choix. Nous nous attendons à la grande inconnue. C'est plutôt la commission qui va maintenant essayer de fouiner dans les textes de finances, salaire des personnels, des services publics et également dans les diplômes. Nous allons voir, lorsque nous allons donner nos résolutions, nos conclusions avec les recommandations, est-ce qu'il va les faire appliquer. Mais c'est ce jour-là que je dirais que Dédi a appliqué une fois les recommandations que la plateforme lui a proposées.
Après deux jours de travail, le comité paritaire pour l'assainissement des fichiers de la solde a suspendu ses activités suite à un malentendu entre les membres de l'équipe alors que le comité a 45 jours pour finaliser le travail. La plateforme syndicale menace de claquer la porte si le gouvernement ne règle pas la situation dans un délai d'une semaine. André Kodmatingar Ndjamena, VO Afrique.
VO Afrique, Ndjamena, c'est 93.1 FM, au Tchad.
Opérations d'aménagement et d'entretien des voiries en Guinée, elles sont en état de dégradation très poussée et des routes envahies par des ordures. Plusieurs ministres et des habitants de Conakry organisent une fois par mois une journée d'assainissement pour protéger les routes et rendre la ville propre. D'autres initiatives proposent plutôt le recyclage des déchets pour rendre cette campagne efficace. C'est un reportage de Zakaria Kamara, notre correspondant à Conakry.
Il n'est pas rare de voir Mariam et ses collègues marcher dans les quartiers de la haute banlieue de Conakry à la recherche des plastiques. Les mains dans les gants, les bottes pieds et les nez couverts, elles passent d'une poubelle à l'autre. Mariam Mohamed Keta, directrice générale de Binedu Global Service.
Cette étape consiste à la collecte des plastiques. On a besoin de tout plastique pour les mettre dans le sac et les envoyer dans l'atelier.
Les trois femmes plastiques, comme on les appelle, reviennent à l'atelier, les sacs pleins. Il faut dépoussiérer les plastiques, les peser, ensuite les mettre dans une cuve posée sur le feu de bois. 20 kg de plastique et 10 kg de sable sont mélangés pour obtenir une matière noire qui sera ensuite coulée dans des moules. Chaque brique fabriquée est une réponse qu'apporte la directrice générale de Binedu Global Service aux nombreuses questions des Guinéens.
La recherche de mon premier emploi m'a mené à visiter bon nombre de rues de Conakry. Après analyse, j'ai constaté que le recyclage de ces plastiques peut répondre à plusieurs besoins, dont entre autres la protection de l'environnement, la fourniture des pavés et des briques aussi aux entreprises de construction et beaucoup d'autres.
Près de 500 000 tonnes de déchets plastiques sont produites par an en Guinée. Selon les chiffres officiels, ces déchets sont abandonnés à l'air libre sans aucune politique de collecte, de transport et de recyclage. Pour Ibrahima Kamara, les pavés fabriqués par son entreprise pourraient être un soulagement pour les habitants de la capitale. Le souci de tout le monde, y compris le président de la République, c'est comment résoudre le problème problème des ordures. Ce que nous faisons est l'une des solutions à ce problème. 9 mois après sa création, l'entreprise de Mariam peine à produire en grande quantité. Elle n'a pu produire et vendre qu'un peu plus de 500 mètres carrés. Malgré tout, Mariam n'entend pas s'arrêter en si bon chemin.
Nous avons besoin des machines pour vraiment nous soulager un peu. Parce qu'avec la mer, la manière dont nous faisons comme ça manuellement, c'est un peu fatigant. C'est un peu fatigant. Mais si nous avons aussi des machines avec nous qui font le broyage et puis encore le mélange, ce sera un peu possible. Oui. Vraiment, ça nous aidera.
À Conakry, on produit par jour plus de 1200 tonnes d'ordures de toute nature, dont les déchets plastiques. Une partie de ces déchets est souvent drainée vers la mer par manque d'entreprises en charge de collecter les ordures dans les communes urbaines.
Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Donald Trump va livrer demain soir son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès. Ce discours annuel du président des États-Unis devait se tenir il y a une semaine, mais a dû être reporté à cause de la fermeture partielle du gouvernement, faute d'accord sur le budget. D'ailleurs, un autre shutdown n'est pas exclu si un accord n'est pas trouvé d'ici le 15 février. Un reportage de Michael Bowman avec le récit d'Abdourahman Dia.
Cela faisait 9 ans que le président de la Chambre, Nancy Pelosi, n'avait plus présidé un discours sur l'état de l'Union. Alors qu'elle était enthousiaste en écoutant l'ancien président Barack Obama dérouler son programme pour l'année 2010, elle a déjà annoncé la couleur pour ce qui est du discours de Donald Trump ce mardi.
Il n'est pas prévu d'argent dans la loi pour le mur.
Donald Trump, lui aussi, reste droit dans ses bottes. Il continue d'exiger son mur à la frontière avec le Mexique.
S'il n'y a pas de mur, ça ne marchera pas. Elle joue. S'il n'y a pas de mur, ça ne marchera pas. Et nous construisons le mur en ce moment.
Un comité bipartite du Sénat et de la Chambre a moins de 2 semaines pour concocter une proposition sur la sécurité à la frontière qui ferait partie du budget devant être approuvée avant le 15 février pour éviter une autre fermeture du gouvernement. Ben Cardin est sénateur démocrate.
Le shutdown de Trump était révélateur. Après 35 jours, beaucoup d'Américains comprennent mieux le dur travail qu'abattent nos employés fédéraux pour soutenir notre économie, notre sécurité, la santé publique et la vie de tous les jours.
Mitch McConnell, le patron républicain du Sénat, estime qu'il faut éviter un autre shutdown à tout prix.
Je soutiens tout ce qui marche, ce qui veut dire qu'il faut éviter un shutdown, qu'il faut éviter que le président ne sente le besoin de déclarer l'état d'urgence. La manière d'y arriver, comme vous le savez, a été un défi.
Mais il n'y a pas que le mur et l'immigration qui vont occuper les débats au Congrès lors du discours sur l'état de l'Union. Le président devrait s'expliquer sur sa décision de se retirer de la Syrie, arguant que le groupe État islamique a été vaincu. Mais cette assertion a été contredite par le directeur de l'Agence nationale des renseignements, Dan Coats, devant le Congrès. Le président pourra aussi mettre en exergue les bons résultats de l'économie américaine. 300 000 nouveaux emplois ont été créés en janvier, dépassant les prévisions. Le taux de chômage, lui, reste à 4%.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Say I
Voilà, c'était un petit morceau pour terminer en beauté. Si vous faites ce que vous aimez, sachez que c'est la pierre angulaire de l'abondance dans votre vie. C'est la fin de cette édition à la mise en onde. Georges et Léonard Stagnon, à la console Regis Ogis, à la présentation Morgane Guiriec et Eric Manirid.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24/24. Au revoir.